Manuel Bompard, je suis directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon.
Quelle est la position de Jean-Luc Mélenchon concernant les OGM, les pesticides et les perturbateurs endocriniens ?
Bah, clairement, il faut interdire ces produits-là qui ont des conséquences pour l'environnement, mais aussi des conséquences pour la santé des principaux utilisateurs. Les pesticides, aujourd'hui, on compte plus malheureusement ces dernières années le nombre d'agriculteurs qui sont victimes de cancer, qui meurent avant d'avoir atteint un âge élevé, pour des raisons d'utilisation de produits qui sont des produits dangereux. Donc il faut interdire ces produits-là. Et on sait aussi qu'il y a un certain nombre de réglementations aujourd'hui, notamment de projets d'accords transatlantiques entre la France et les États-Unis, comme le TAFTA, auquel il faut mettre un terme immédiatement, car il conduirait à mettre un terme aux normes qui déjà réglementent un petit peu l'utilisation des produits dangereux et chimiques dans notre pays. Donc voilà, il faut interdire, il faut refuser les projets internationaux qui visent à nous empêcher de garantir et de maintenir ces normes qui sont indispensables. Et puis il faut bien sûr aller plus loin dans les interdictions. Mais c'est pas seulement interdire l'utilisation des produits, c'est aussi développer les solutions alternatives. Pour ça que nous on parle d'un programme ambitieux pour un retour à une agriculture qui soit une agriculture biologique et paysanne, et qui passe là aussi par des créations d'emplois, puisque c'est pas le même type d'agriculture, c'est pas le même type et pas la même taille d'exploitation agricole. Donc nous on a estimé dans le programme à 300 000 emplois nécessaires pour pouvoir passer à une agriculture qui soit une agriculture respectueuse des êtres humains et de la planète. Donc bien sûr interdire, mais aussi promouvoir, faciliter le travail des agriculteurs qui, en fait, personne n'a envie de travailler avec des produits dangereux. Donc il faut favoriser les alternatives qui permettent qu'on passe enfin à une agriculture qui soit une agriculture de qualité, respectueuse, je le dis, des êtres humains, de la planète et de la souveraineté alimentaire de notre pays.
Quelle est votre position concernant le principe de précaution qui revient beaucoup dans la campagne chez certains candidats?
Bah, c'est sûr que nous ne sommes pas d'accord avec les remises en cause permanentes du principe de précaution. Bien sûr, ce qui doit primer, c'est l'intérêt des êtres humains, l'intérêt de l'environnement, et c'est ce qui doit primer sur... Souvent, ceux qui remettent en cause le principe des précautions, ils aimeraient bien que ça soit d'abord le profit, et puis ensuite qu'on s'intéresse aux conséquences. C'est pas notre état d'esprit. On doit d'abord regarder les conséquences de ce qu'on fait, nos productions, de l'utilisation de produits chimiques, avant de regarder si ça va nous rapporter de l'argent.
Comment, selon vous, selon Jean-Luc Mélenchon, prévenir les scandales sanitaires liés à l'industrie pharmaceutique ?
Bah, d'abord, il faut pas laisser tous les pouvoirs à l'industrie pharmaceutique, qui aujourd'hui a un pouvoir exorbitant. Donc, dans le programme, on parle d'un pôle public du médicament, qui permet de faciliter l'accès pour tout le monde aux médicaments dont ils ont besoin pour se soigner. Et d'arrêter ces logiques où vous êtes obligé de passer par une entreprise pharmaceutique particulière qui dicte donc ces conditions à l'ensemble de la population. Bon voilà, et ensuite il faut poursuivre, il faut mettre un terme, il faut poursuivre les entreprises qui ont été responsables dans les scandales sanitaires récents. Il faut aller au terme des procédures. Et puis je crois qu'il faut une politique qui soit une politique de soutien aux lanceurs d'alerte et aux lanceuses d'alerte, qui souvent sont ceux qui révèlent ce type de scandale, qui sont souvent soumis à des pressions, à des menaces, qui sont des menaces insupportables. Donc nous, on est favorable à un statut qui protège ces lanceurs d'alerte, qui le font pour l'intérêt général, et qui dénoncent souvent, qui sont un petit peu le petit grain de sable qui fait dérailler des machines à détruire la planète ou l'environnement. Donc voilà quelques mesures qu'on peut mettre en place qui permettent de mettre un terme au fait que ces industries pharmaceutiques ont pris un pouvoir sur nos vies qui est exorbitant aujourd'hui.
Comment faudrait-il financer la santé publique ?
Alors nous, on est favorable à un système qui... un système de rembourser les soins à 100%. Alors on sait que dit comme ça peut paraître ambitieux, ça l'est pas tant que ça. Pour ça, on s'appuie notamment sur le statut social particulier qui existe aujourd'hui en Alsace et Moselle, en France, qui est un statut social particulier qui vise notamment à ce que les mutuelles soient intégrées dans le régime général de la sécurité sociale. Aujourd'hui, c'est financé à 90% à peu près dans le système de sécurité sociale d'Alsace-Moselle. Nous, on a montré qu'on peut le financer à 100%, notamment parce que inclure les mutuelles dans le système de sécurité sociale, c'est aussi réduire les frais de dossier, la publicité, les concurrences entre les différents mutuelles qui se font souvent pas pour le bien-être des personnes qui sont en recherche de soins. Voilà, clairement, on est pour un système qui soit un système, c'est pas seulement comment on va le financer, c'est aussi comment on permet à chacun de se soigner. Ça inclut bien sûr les dépenses dentaires, les dépenses de lunettes, parce que c'est pas normal aujourd'hui qu'il y ait des centaines ou des millions de personnes qui auraient besoin de soins dentaires ou de soins optiques et qui ne puissent pas y avoir accès. Et donc pour ça, effectivement, il faut intégrer les mutuelles dans le système de la sécurité sociale. Et puis après, c'est une politique de financement. Là, je vous renvoie au chiffrage de notre programme que nous avons fait en direct sur YouTube le 19 février dernier, que vous pouvez voir, et qui démontre qu'il y a de l'argent dans ce pays en luttant contre l'évasion fiscale, en faisant une réforme fiscale qui soit une réforme fiscale d'envergure, en redispatchant et en redéployant les crédits du crédit impôt compétitivité emploi. Voilà, il y a de l'argent qui a été utilisé à notre avis à mauvais escient ces dernières années et qu'on peut remettre sur des priorités pour les Français. Et le fait de se soigner et de vivre en bonne santé, c'est pour nous clairement une priorité.
Comment, selon Jean-Luc Mélenchon, organiser la recherche scientifique concernant les problématiques de santé ?
De la même manière qu'il faut organiser la recherche sur les thématiques qui sont sur les sujets, on va dire, qui sont les sujets essentiels pour l'avenir des populations. Donc d'abord, ça passe par des financements et des crédits pour la recherche publique, qui aujourd'hui, franchement, est comprimée par les politiques d'austérité qui lui empêchent à la fois d'avoir des programmes de recherche ambitieux et qui lui empêchent d'avoir du personnel et des enseignants-chercheurs qui sont rémunérés aussi d'une bonne manière. Aujourd'hui, vous savez, quand on est dans un... Moi, je suis chercheur, je suis un docteur en mathématiques appliquées. Je sais que aujourd'hui, la recherche est la voie qui est loin d'être la voie la plus facile à entreprendre, parce que c'est pas la voie qui... Alors, on fait souvent ça par passion, par plaisir, mais c'est souvent pas la voie qui est la voie la plus reconnue, la plus primée, alors que c'est des gens qui font un travail extraordinaire et exceptionnel. Donc voilà, ma réponse n'est pas spécifique sur les questions de santé, en fait. Mais je crois qu'il faut investir davantage que ce que nous faisons aujourd'hui dans la recherche publique, qui est une recherche de qualité, qui souvent ne se fait pas forcément sur des sujets qui sont des priorités immédiates, hein, mais qui permettent de préparer l'avenir aussi. Moi, dans le domaine que je connais, je sais que c'est les chercheurs français qui, dans les années 70 ou 80, ont ouvert la voie à des méthodes, des technologies, des réflexions qui sont utilisées aujourd'hui. Donc il faut favoriser cette recherche publique, ne pas lui donner des critères et des objectifs de rentabilité immédiate, parce qu'il y a beaucoup de richesses, beaucoup d'intelligence dans ce pays. Mais il faut lui laisser le temps aussi, hein. La recherche, c'est quelque chose qui nécessite du temps. Donc voilà, une politique beaucoup plus ambitieuse qu'aujourd'hui sur la recherche publique.
Quelle est la position de Jean-Luc Mélenchon concernant la PMA et la GPA ?
Alors nous sommes favorables à la PMA. Nous l'avons dit, hein, c'est déjà une position qu'on portait en 2012. Par contre, nous sommes défavorables à la gestation pour autrui. Tout simplement parce que nous considérons que ça revient à utiliser le corps d'un être humain comme un instrument de production, et donc à commencer à rentabiliser. Et on sait très bien qu'il n'y aura pas égalité dans cette question de la GPA. Et ce que nous avons déjà dit sur ce sujet, nous attendons avec impatience qu'on nous présente la milliardaire qui proposera son corps pour aider une personne qui est sous le seuil de pauvreté à avoir un enfant. Tout le monde sait très bien que ça n'existera pas. Et donc en réalité, ça va précariser encore davantage les plus modestes, les gens qui ont le plus de difficultés sociales, et les pousser à utiliser leur corps comme un instrument de production, avec toutes les conséquences que ça peut avoir pour leur santé. Donc voilà, nous sommes favorables à la PMA, mais nous sommes défavorables à la GPA.
Quelle place, selon vous, consacrée à la bioéthique dans la recherche scientifique ?
Bah, c'est clair que toutes les frontières peuvent pas être franchies et dépassées sans qu'on ait un regard qui soit un regard éthique sur la recherche. Donc bon, dans les mesures que l'on propose sur le programme, on considère que la recherche, à partir du moment où elle concerne l'ensemble de la population, notamment parce que quand on fait de la recherche sur la santé publique, c'est toute la population qui en profite. Donc on considère que les citoyens devraient être associés aussi aux choix qui sont et aux priorités qui sont les priorités fixées à la recherche. Et cette association des citoyens dans les politiques de recherche, clairement, serait aussi une garantie, une veille, une mise en garde que des frontières qui sont des frontières dangereuses ne soient pas franchies.